Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'idolâtrie, un thème qui réapparaît tout au long de la Bible.
Nous y réfléchirons en compagnie de Jean-Marc et nous verrons à quel point ce thème, qui peut sembler à première vue démodé, est en fait très pertinent et d'actualité. Bonjour Jean-Marc et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous allons poursuivre nos réflexions sur le thème de l'idolâtrie en faisant référence à ce qui se produisit lorsque l'apôtre Paul apporta la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux habitants de la ville d'Éphèse, car il s'agit là d'un exemple instructif et pertinent.
Parlez-nous d'abord de la ville d'Éphèse.
La ville d'Éphèse était une cité fort importante au 1er siècle qui se situait en Asie mineure. Aujourd'hui, ses vestiges se trouvent en Turquie. Cette ville nous intéresse car la pratique de l'idolâtrie y était particulièrement présente. Les gens s'adonnaient à la sorcellerie et à toutes sortes de pratiques occultes, ainsi qu'à la prostitution et à l'immoralité liées à ces cultes.
Et de telles pratiques restent courantes dans certaines cultures.
Tout à fait. La crainte des esprits et la pratique de la sorcellerie demeure très courante de nos jours. Dans certaines cultures, cependant, ces pratiques y sont plus ou moins cachées, mais néanmoins bien présentes, tandis que dans d'autres, elles apparaissent au grand jour. Avoir recours aux esprits, aux diverses pratiques occultes et à la sorcellerie, c'est tomber dans l'idolâtrie. C'est accorder à ces mauvais esprits la place que Dieu seul devrait occuper. En faisant appel à ces esprits par la magie, les hommes recherchent auprès d'eux ce qu'ils devraient rechercher en Dieu, seul. Souhaitons-nous obtenir des réponses à nos prières? Tournons-nous alors vers l'Éternel et cessons de manipuler les esprits en notre faveur. Si nous faisons face à des difficultés, nous devons les soumettre à Dieu, le Tout-Puissant, et délaisser tout recours à la sorcellerie.
Merci Jean-Marc, mais parlez-nous davantage d'Éphèse et de ce qui s'est passé lorsque l'apôtre Paul y a annoncé l'Évangile.
Paul passa au moins 2 années à annoncer la bonne nouvelle à Éphèse, et voici quelques extraits du chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres qui raconte son séjour.
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. « Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir !» Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte. Et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus, grâce à la puissance du Seigneur.
Jean-Marc, quelle remarque voulez-vous apporter à partir de ce récit?
De toute évidence, de nombreuses personnes à Éphèse étaient tombées sous l'emprise de démons ou de mauvais esprits. Or, ceci constitue un avertissement. La pratique de l'idolâtrie et le recours à la sorcellerie risquent de conduire ceux qui s'y adonnent à devenir esclaves de mauvais esprits. Une expérience fort angoissante et douloureuse. mais en donnant leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes à Éphèse furent libérées d'emprises démoniaques. Jésus peut, en effet, délivrer tout homme, toute femme du pouvoir des ténèbres. Et voilà une bonne nouvelle. Dans cette ville, Jésus a déployé sa toute-puissance de façon remarquable. En brisant l'action des mauvais esprits, il a prouvé qu'il est le Tout-Puissant, qu'en comparaison, les démons ont un pouvoir limité. Les idoles maintenaient ces gens dans l'esclavage, dans la peur, mais Jésus a renversé leur pouvoir en délivrant tous ceux qui se sont tournés vers lui. Beaucoup ont réalisé que Jésus est le seul vrai Dieu, le seul vrai Seigneur, que les idoles étaient de faux dieux. En plaçant leur foi dans le roi sauveur, ces hommes et ces femmes durent renoncer à leurs anciennes pratiques. Ils refusèrent d'assister aux cultes idolâtres. Ils rejetèrent l'immoralité qui y était associée, la pratique de la magie et tout recours aux arts occultes. Pour exprimer publiquement cette volonté de changer de vie, beaucoup détruisirent tout objet en leur possession qui avait un quelconque rapport avec l'idolâtrie et la sorcellerie, tout en confessant publiquement leurs péchés.
Oh, Jésus-Christ est le même aujourd'hui encore.
Oui, la bonne nouvelle qu'il apporte représente une espérance formidable pour tous ceux et celles qui regrettent amèrement d'avoir touché à la sorcellerie et à l'idolâtrie. Une fois sous l'emprise de telles puissances maléfiques, il est impossible de s'en sortir par soi-même. Cependant, Jésus demeure le Tout-Puissant et il agit encore aujourd'hui pour renverser le pouvoir de toute idole, de tout esprit et libérer ses victimes.
Et pour ceux qui aspirent à être délivrés des démons, quelles démarches doivent-ils entreprendre ?
Ils doivent se tourner vers Jésus dans une démarche de foi et de repentance. La foi, c'est posséder la ferme conviction que Jésus est le Sauveur, qu'il peut tout, que rien, absolument rien, ne lui est impossible et qu'il est disposé à nous accorder la délivrance. La foi s'exprime par la prière, prière qui s'appuie sur les promesses de Jésus trouvées dans la Bible. Dans le cas d'attaque dû au harcèlement de mauvais esprits sur une personne, il est souvent important de prier avec un ou plusieurs chrétiens mûrs pour ensemble implorer le Seigneur de déployer sa toute-puissance sur la personne concernée. La repentance exprime le désir, la détermination de renoncer à ses anciennes habitudes et à ses pratiques idolâtres. Les chrétiens d'Éphèse, quant à eux, brûlèrent tout objet utilisé pour pratiquer la sorcellerie et l'idolâtrie. Nous-mêmes aussi, nous devons nous séparer de tout objet qui pourrait nous tenter et nous reconduire vers nos anciennes habitudes idolâtres. Tout comme les premiers chrétiens cessèrent de fréquenter les temples et d'assister aux festins organisés pour honorer des idoles, nous aussi, nous devons ne plus nous rendre sur les lieux où la sorcellerie se pratique, ni fréquenter ce qui nous incite à retomber sous l'influence de mauvais esprits.
Merci Jean-Marc pour ces conseils et pour cette espérance merveilleuse. Jésus-Christ délivre de l'emprise des démons.
Jean-Marc, pour vos enseignements clairs et instructifs. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Nous continuons notre série de méditations sur le fruit de l'Esprit, basée sur un verset bien connu trouvé dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
À présent, notre invité Patrick va réfléchir sur la dernière de ces qualités énumérées. Il s'agit de la maîtrise de soi. Bonjour Patrick.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur cette qualité telle que nous la découvrons dans la vie de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, il convient de la définir. Le mot grec trouvé dans le texte original parle de la vertu de celui ou de celle qui sait dompter ses désirs et ses passions. Ce mot grec employé s'applique tout particulièrement aux désirs physiques, tels que l'appétit, notre besoin de nous nourrir et de boire, mais plus pertinent encore, au rapport sexuel. On pourrait cependant aussi ajouter le besoin de maîtriser ses sentiments, tels que la colère. Jésus était parfaitement homme. Aussi les désirs et les aspirations qui animent tout homme, toute femme, étaient présentes en lui. Cependant, il pouvait parfaitement les maîtriser. Il pouvait renoncer aux passions démesurées ou mal placées qui auraient pu le conduire sur des sentiers sans Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux déclare au chapitre 4, versets 14 à 16, « Puisque nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Approchons donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Ce texte nous révèle Jésus dans toute son humanité, car Jésus fut tenté en tout point comme nous. Ces tentations devaient inclure toute passion, tout appétit de la chair. Pourtant, malgré ces tentations, tout aussi intenses que les nôtres, Jésus n'y a pas cédé. Jésus n'a pas commis de péché. Pourquoi ? Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Il pouvait contrôler tous ses désirs. Mais voici l'encouragement qui se dégage du texte lu. D'abord, lorsque nous faisons face aux diverses tentations, lorsque nous sommes en lutte avec les passions et les désirs de notre corps, Jésus nous comprend et il a compassion de nous. Pourquoi ? Parce qu'il était parfaitement homme et il connaît nos épreuves. Parce que Jésus nous comprend, nous pouvons nous approcher de lui pour lui exprimer nos sentiments, nos craintes, lui expliquer que nous avons du mal à lutter contre la tentation. Si nous tournons vers lui, il nous aidera à surmonter toute tentation. Il nous aidera à nous maîtriser. Il nous enverra son esprit pour nous soutenir dans nos luttes et produire en nous ce fruit de la maîtrise de soi.
Nous remercions Patrick pour ses paroles qui nous encouragent à nous tourner vers Jésus. Il est notre secours dans l'épreuve.
Patrick sera de retour parmi nous la prochaine fois. Et en attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.